Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Axelle, oui. Votre aînée maintenant est adolescente.
Voilà,
si
elle
j'ai bien calculé, 14 ans. Voilà. Est-ce que vos enfants ont lu votre livre?
Alors les trois aînés, les trois filles ont lu le livre et le petit dernier, Calixte, en est à la moitié.
Ah, il a commencé?
Il a commencé, j'ai commencé avec lui et je préférais qu'il ne le lise pas tout seul parce que c'était beaucoup d'émotions, notamment le début, l'introduction avec cette lettre que vous avez lue
tout
à l'heure,
récit, ouais.
Qu'il a laissé en larmes.
Ouais.
Du coup, quand j'ai vu ça, je lui dis « Attends, on va le lire ensemble.
Ouais.
On va le lire ensemble. » Et donc, quand il me demande, on en lit quelques pages.
Vous avez fait le choix de les associer à tout ce processus, du début à la fin, sans jamais rien cacher, sans non plus vouloir leur faire peur.
Oui.
J'ai été surpris, notamment, vous les avez amenés au funérarium, tous les quatre.
Oui.
D'autres parents auraient choisi de les écarter de ça.
Oui, alors pour moi, c'était très important qu'ils voient que c'était bien le corps de leur papa qu'on allait mettre dans ce cercueil, qu'on allait mettre en terre. Vous savez, les enfants ont un imaginaire qui est très fort, très développé. Et donc, je voulais qu'ils soient sûrs de la réalité de ce que je leur disais. Je voulais aussi qu'ils puissent dire au revoir au corps, à la dépouille de leur papa. Et ils ont apporté plein de dessins qu'on a pu mettre dans le cercueil aussi.
Mmh. Ouais. C'est étonnant la manière dont vos enfants, manifestement, ont partagé tout ça, avec une forme de solidité.
Oui, effectivement, ils sont solides. Maintenant, je vous rassure, ils sont aussi des enfants et les larmes sont là. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, mon petit dernier, Calixte, qui regardait l'album photo de son papa, comme il aime bien à le faire de temps en temps, le soir, me regarde avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'émotion. Il me dit « Mais maman, est-ce que papa, avant de mourir, a eu peur ?» Ensuite, il me regarde encore et il me dit « Maman, est-ce que papa avait d'aussi beaux yeux que les tiens ?» Et bon, derrière ce petit garçon qui a un grand amour pour sa maman, j'entends « Je ne me souviens pas des yeux de mon papa
ah ». Oui,
et c'est ce qu'il me dit parfois.
Tout petit. Il était trop petit peut-être.
Il avait à peine 5 ans.
Qu'est-ce que vous avez répondu à la question « Est-ce qu'il a eu peur ?»
Je lui ai répondu, parce que je dis dans le livre, qu'il a eu peur de nous laisser. Il n'a pas eu peur
de la mort,
mais ça a été douloureux. Ça a été douloureux et en même temps, ces derniers jours que nous avons vécu, cette agonie a été extrêmement violente. C'était vraiment quelque chose d'une douleur très très crucifiante. Nous savions que nous allions devoir nous séparer. Je savais que j'allais devoir continuer à élever physiquement toute seule mes enfants et en même temps, eh bien, nous avons vécu ce temps-là dans une joie qui est très ineffable, presque indicible, quelque chose qui nous est tombé dessus de très doux et de très paisible. Donc,
qui est lié à votre foi ?
Ben, je suis pas si sûre, mais d'abord, la première réalité, c'est d'avoir été là, en fait. C'est d'avoir pu l'accompagner
jusqu'à la dernière seconde.
Jusqu'à la dernière seconde et sans mise en scène, sans phare. Vraiment dans la vérité de la relation, de l'être, je lui tenais la main, je lui caressais la main.
Et sa mère tenait l'autre.
Et j'étais là, et sa mère tenait l'autre. Et c'est pas si facile de partager l'être que l'on aime. Je suis mère moi-même, et j'imagine que c'était pas si facile. Et voilà, chacune d'un côté. Et voilà, nous avons vécu cette agonie. Un peu comme, je dirais, la manière dont nous avons pu vivre les naissances de nos enfants. C'est-à-dire face à quelque chose qui nous dépassait, un grand mystère, avec une paix et une joie profonde, malgré la souffrance qui vous torture. En fait, c'est les deux choses qui sont en même temps. Mais une vraie sérénité.
Être croyant est utile à ce moment-là ?
Être croyant, ça n'empêche pas la souffrance, on n'en est pas exempt du tout. Ce qui est sûr, c'est que ça vous donne l'espérance. Et pour aujourd'hui, pour mes enfants comme pour moi, ça nous donne l'espérance des retrouvailles. De se dire qu'un jour, on va se jeter dans les bras l'un et l'autre et reprendre cette danse qui s'est arrêtée trop tôt.
Votre vision donc de l'après, c'est que vous vous retrouverez.
On se retrouvera, ouais. C'est une certitude.
Pas de doute.
Non, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Et c'est... Voilà, c'est ma joie, c'est celle aussi de mes enfants. Et c'est aussi une invitation à vivre de manière riche la vie qui m'est donnée de vivre et de manière aussi un peu fidèle à Léonard, mais je veux dire fidèle à ce que nous avons été, à ce que nous avons voulu être, à ce que je voudrais continuer à être pour moi en tant que femme et en tant que mère de mes enfants aussi.
Alors Axel, moi j'ai raconté ici déjà beaucoup d'histoires de maladies et déjà des histoires de femmes accompagnant leur mari jusqu'au bout, leur enfant jusqu'au bout. Vous êtes la première à ne pas vous être jetée sur Internet dans la seconde qui suit le diagnostic. Pourquoi ?
Un petit grain de folie peut-être déjà et passer le choc, la sidération de l'annonce, peut-être est-ce qu'il y a eu une forme de déni ? Et sûrement une manière de nous préserver. Le médecin nous avait dit que dans 10% des cas, la maladie cessait d'évoluer.
Donc on
s'accrochait à ça. Et puis on avait aussi en tête l'idée de vivre le présent. Voilà, de ne pas anticiper sur le futur et peut-être que la maladie n'allait pas évoluer. On n'allait peut-être pas tomber dans la chose la plus dramatique. Donc on allait attendre et on allait vivre le présent.
Vous dites dans votre livre que sans doute votre entourage y est allé sur
oui.
Internet.
Ah bah ça c'est sûr.
Ouais. Eux ils savaient.
Oui, eux savaient et puis au fil et à mesure du temps il y a eu quelques petites gaffes quand même.
Ils ont laissé passer des trucs.
Voilà. Et donc là le voile s'est levé peu à peu et donc on a eu quelques indices jusqu'à ce que la maladie évoluant, de toute manière on n'a plus eu le choix que d'être confronté à la réalité.
Léo découvre vraiment le diagnostic prédictif de 3 ans en lisant le cerveau pour les nuls.
Je crois oui.
C'est fou, ouais. Parce que c'est à Noël, le diagnostic a lieu 1er juillet.
Ouais, 6 mois plus tard.
6 mois plus tard. Ouais.
Il y a eu ce livre, il y a eu un film, il y a eu, je vous dis, quelques petites
Il y a eu un documentaire
gaffes,
aussi.
Ouais. Voilà. Ouais.
C'est fou.
C'est fou, oui, c'est fou. Ouais.
Ça vous rend très singulier dans le paysage humain contemporain. 99,9% des gens se ruent sur Internet pour savoir ce qui va se passer.
Peut-être. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça m'a, moi en tout cas, complètement préservée. Et vraiment, je pense, Léonard aussi, dans un premier temps.
Les médecins ne vous disent pas non plus quelle est l'issue.
Les médecins, ils sont très fins parce qu'ils répondent à vos questions. Et tant qu'on ne pose pas la question, ils ne devancent pas.
Et vous n'avez pas posé la question.
Et on n'a pas posé la question.
Ce qui vous rend singulier aussi.
Mais parce que on n'y croyait peut-être pas. Vous voyez, c'est un peu un mélange de déni et puis de volonté de vivre, d'être préservé, de vivre le présent.
Mais donc, dans les jours qui suivent le diagnostic, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de grave, en vérité.
Non, pas du tout.
Vous êtes un peu badin.
Il boite, c'est tout.
Voilà. Il boite, c'est tout. Vous auriez préféré ne jamais savoir ? Ou à un moment donné,
non, je
il
trouve
faut
que
s'organiser,
c'était bien, comme ça a été. On ne va pas refaire l'histoire, mais je pense qu'on a été préservés et qu'on a su quand même la gravité en temps et en heure pour anticiper comme il fallait le faire. Voilà.
Il y a autre chose qui rend votre récit et votre livre très singulier par rapport à d'autres livres similaires, c'est que vous n'y parlez quasiment pas des médecins. Or souvent, les gens qui ont eu à affronter la maladie ont des choses à dire sur les médecins, des comptes à régler d'ailleurs, en règle générale. Dans votre livre, les médecins n'existent quasiment pas, l'hôpital n'existe quasiment pas. On a l'impression que ces 3 années et demie se sont passées à la maison, et hormis la dernière hospitalisation jusqu'à l'issue fatale, que vous n'avez jamais vu un seul médecin.
Alors c'est un peu une impression parce qu'on avait quand même un rendez-vous médical tous les mois. Donc c'était une parenthèse, c'était assez éprouvant parce que il fallait organiser la journée, la garde des enfants qui était quand même pas bien grand. Et puis donc il y a eu ces 3 dernières deux semaines et demie d'hospitalisation à la fin. Et moi, je rends un très, très grand hommage au personnel médical.
De la pitié salpêtrière.
De la pitié salpêtrière. J'ai été très, très touchée par leurs compétences techniques, scientifiques, mais aussi par leur profonde humanité. Je pense notamment au médecin pneumologue de Léonard à la pitié, qui est venu nous voir 3-4 jours avant la mort de Léonard, c'est-à-dire avant que Léonard ne rentre dans son agonie, il était pleinement conscient. Et il nous a fait comprendre que tout avait été fait et qu'il fallait que l'on accepte l'inéluctable et qu'il fallait que nous consentions enfin à cette mort. Et vraiment, je rends grâce à ce médecin d'avoir pu nous dire ça et que tout a été fait sans acharnement ni euthanasie. Et donc que nous ayons pu vivre cette agonie, d'avoir donc 3 jours pour nous dire, pour que moi je puisse dire ces mots importants et que Léonard puisse les entendre, merci, je t'aime, pardon, s'il te plaît, quand tu seras là-haut, est-ce que tu peux intercéder pour telle et telle raison, que nous ayons pu nous redemander en mariage aussi.
Vous vous êtes redemandé en mariage. Je n'ai pas gardé cette scène parce que, j'ai trouvé d'abord que c'était très intime, et puis j'étais pas sûr de l'avoir compris. En fait, vous vous êtes remarié quelques heures avant sa mort. Enfin, quelques jours avant sa mort.
Ouais, c'est ça. On essayait de se demander en mariage pratiquement tous les jours. Et il y a gravé en moi cette dernière demande en mariage, donc 3 jours avant la mort de Léonard, juste avant qu'il ne rentre dans son agonie.
Est-ce que la question de l'euthanasie s'est posée à un moment ?
Non, la question s'est pas du tout posée, parce que les choses ont été extrêmement claires, que nous ne voulions ni acharnement ni euthanasie. Et j'ai été donc vraiment très émue et touchée devant la compétence du personnel médical qui nous a laissé, qui a tout fait pour Léonard, pour sauver Léonard. Et il y a eu un moment où il n'y avait plus rien à faire. C'est-à-dire que la trachéotomie n'était pas envisageable dans notre cas.
C'est-à-dire introduire un tuyau qui, au fond, aurait forcé la respiration.
Voilà, c'est-à-dire que Léonard aurait été relié à une machine jour et nuit avec du personnel médical à ses côtés. Et dans le même temps, que les choses restent naturelles et ne soient pas hâtées. En fait, l'infirmière n'a pas débranché un respirateur, mais simplement les lunettes d'oxygène.
Oui, elle les lui a retirées.
Elle les lui a retirées à un moment, au bout de 3 jours, alors que l'agonie commençait à devenir quand même, était très, très longue et douloureuse. Tout en étant un temps béni, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, temps béni où je pouvais parler à Léonard et lui dire tout ça et le caresser et je suis persuadée qu'il m'entendait. Et il y a eu un moment, il fallait accepter ce dernier souffle de Léonard et avec cette perspective qu'un jour nous nous retrouverons.
Quelle différence est-ce que vous faites entre la sédation, puisqu'il accepte donc 3 jours avant de mourir d'être sédaté, et l'euthanasie ?
Eh bien, la sédation n'a pas pour but de tuer. Elle a pour but de soulager. Voilà, de favoriser l'endormissement, mais absolument pas la mort. En fait, ça faisait 2 semaines que Léonard n'arrivait plus à dormir, à s'endormir, parce que il n'était pas dans la bonne position, il glissait en fait. Donc avec ses 35-40 kilos, c'était difficile, les problèmes de respiration, les problèmes de déglutition. Donc 2 semaines sans dormir au niveau de fatigue qui était le sien, c'était difficile. Et les médecins jusqu'alors avaient dit non, on peut rien vous donner parce que si on vous donne quelque chose, ça risque de hâter la mort. Ce n'est qu'au moment où les médecins ont dit il y a plus rien à faire, on accepte de vous donner un sédatif qui a pour but de vous aider à dormir et certainement pas de vous tuer.
Juste une petite question pour nourrir une curiosité, mais finalement c'était un placebo, le stimulateur diaphragmique ou pas ?
Non, c'était pas un placebo.
Il a été utile dans cette recherche ?
C'est une bonne question, je pense.
Ils vous l'ont pas
j'espère.
Dit.
Non, ils ne l'ont pas dit, ouais. J'espère parce que c'était quand même douloureux à installer, que tous les jours il fallait quand même brancher cette machine. Et voilà, il en ressentait quand même un peu les courants électriques.
Alors Léo affronte ses 3 ans et demi sans se plaindre ou si peu, voire avec humour. Je me demandais si c'était son trait de caractère fondamental depuis que vous le connaissiez, de ne jamais se plaindre.
Oui, oui, très certainement. C'est quelqu'un qui avait un énorme humour, mais très fin, et puis qui était très serein. Donc il prenait toujours les choses et les gens comme ils venaient, donc ne s'énervait pas, ne se plaignait pas. C'est quelqu'un qui voyait toujours le verre à moitié plein, et donc moi j'ai essayé d'être un peu à son école et de mettre mes pas dans les siens. C'était pas toujours facile parce que moi je suis plutôt un peu à râler de temps
en
temps,
le racontez,
en tout cas. Léonard m'invite vraiment à la patience et à la douceur. Et puis moi de mon côté, avec mon tempérament un peu battant, je l'invite parfois quand il faut être plus dans l'action et dans l'expression de...
Des fois, il vous énerve par cette...
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Vous le racontez très bien, ça. Parfois, cette manière de voir tout le temps le verre à moitié plein est pénible.
Alors ça, je ne suis pas sûre que ça soit pénible. Ce qui est pénible, c'est qu'il s'énerve jamais.
Alors qu'il y a motif parfois.
Alors qu'il y a motif. En tout cas, qu'il n'exprime pas et qu'au fond de lui, non, il n'a vraiment pas l'air d'être énervé. Mais qu'il voit le verre à moitié plein, non, ça, c'est vraiment une grande chance. Et moi, depuis, j'essaie de faire comme lui.
De vous inspirer de lui. Ouais, voilà. À votre avis, vous dites que donc c'était inné chez lui, cette chose-là. Ça, ouais. ça vient sans doute de son éducation. Est-ce que sa foi fait partie aussi de ça?
Oh, ça, je dirais que c'est avant tout un trait de caractère. Je ne suis pas sûre que ce soit lié à sa foi.
On peut être croyant et très énervé.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, on peut être croyant et drôle ou pas. Donc, Léonard, c'était quelqu'un de très à l'aise, rarement sujet au stress, donc très drôle. Et on peut revenir peut-être sur le titre de ce livre.
Ouais. Donc, le titre de ce livre, si je ne peux plus marcher, je courrai.
Voilà. Alors, au départ, c'était une blague. Ouais. Donc, comme il aimait bien blaguer, bon bah les enfants qui râlaient pour marcher, il leur disait si tu peux plus marcher, tu cours. Ouais. Et là, quand moi un jour après une chute, donc il a fait plusieurs chutes qui à chaque fois nous valaient d'aller aux urgences parce qu'il s'était ouvert la tête. Donc le lendemain de ça, je lui dis mais Léonard, si tu ne peux plus marcher, qu'est-ce qu'on va faire? Et il me répond bah, si je ne peux plus marcher, je courrai. Et moi j'entends vraiment cette phrase comme une invitation à courir le risque du bonheur. Vous voyez pas à courir pour fuir la mort qui est en train de se profiler, c'est pas ça. Il me dit mais moi je veux courir pour chanter la vie, je veux vivre et saisir les mille et une joies du quotidien, saisir ces instants où les enfants rigolent, où il y a une belle lumière, saisir tous ces trésors et faire en sorte que le verre soit à moitié plein.
Son refus de parler de la mort à la fin, est quelque chose d'assez étonnant pour un chrétien. S'il y a vraiment des gens qui sont outillés pour parler de la mort, ce sont les chrétiens, ou les voyants, ou ceux qui croient à l'au-delà, enfin tous les gens qui pensent qu'il y a quelque chose après. Et il est assez étonnant, et vous le dites dans le livre, que ça vous a déçu, un peu. Auriez aimé partager ça avec
J'aurais
lui.
Aimé partager ça, oui. Je ne sais pas si ça m'a déçu, ça m'a... Mais oui, ça a été quand même un peu douloureux. J'aurais aimé qu'on en parle, que je sache où il en était exactement à ce moment-là. Alors, on a parlé de la mort, mais quand la mort était très très proche, à quelques jours. Mais qu'il avait du mal à parler, voilà. Mais quelques mois avant, c'était difficile. C'était quand même très très douloureux. Moi, je veux vraiment ne pas faire d'angélisme. Cette maladie est terrible. Il y a eu une souffrance physique chez Léonard, une souffrance psychologique pour nous deux, parce que la maladie, c'est sa maladie, mais c'est quand même quelque chose que le couple porte ensemble. Et puis, les enfants sont quand même un peu touchés, même si les enfants, malgré tout, sont quand même très préservés, parce qu'ils sont à fond dans l'instant, à fond dans le présent, et qu'on a essayé de garder une vie joyeuse, mais malgré tout c'est très très dur, et il y a des jours où on en veut à la terre entière, alors moi j'en ai pas voulu du tout au personnel médical parce que il a été formidable, mais c'est une maladie très dure.
Vous lui avez demandé aussi des lettres, vous dites qu'il l'a fait très peu, ça veut dire qu'il a laissé un petit mot mais pas plus?
Il a laissé un petit mot à notre fille aînée qui était en camp scout, et pas tellement plus, Je recherche encore maintenant des traces écrites de lui et je recherche
même.
Chaque
fois que vous ouvrez un livre, vous vous dites je vais trouver quelque chose.
Bah oui, mais malheureusement j'ai pas retrouvé.
Il a peut-être pas voulu.
Peut-être que c'était une manière de se préserver et de rester dans le présent. Parce que Léonard, avec sa nature hyper optimiste, se disait vraiment, peut-être que je vais faire partie des 10% pour lesquels la maladie s'arrête d'évoluer. Mais il le pense, et moi aussi d'ailleurs.
Il l'a pensé jusqu'au bout.
Il l'a pensé exactement. Jusqu'à ce qu'il rentre dans son agonie.
Jusqu'à ce que ce soit très invalidant.
Bah, jusqu'à ce qu'on ait cette discussion avec le médecin 4 jours avant sa mort. Il espérait encore s'en sortir. Il me disait, qu'a dit le médecin ?
J'étais ravi, Axel Hubert, de partager cette histoire avec vous.
Moi aussi, merci Christophe.
Votre livre est merveilleux, voilà, je le dis. Si vous voulez le lire, vous le trouverez sans doute sur Internet où le livre ne meurt plus, notamment sur Amazon où nous achetons nous-mêmes beaucoup de ces livres anciens. Si je ne peux plus marcher, je courrai aux éditions MAM. Merci voilà. Axel.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.